you. She'll unease you just to please you. She's got better Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
Là, ce n'est pas des dizaines de milliards, c'est des centaines, c'est des milliers de milliards. Le vieux barbu du 19e siècle, il disait « La bourgeoisie tient l'État par la dette ». Donc, vous voyez, c'est au 19e siècle. Le capitalisme est principalement une usine qui vise à avoir des taux de profit élevés. Et lorsqu'ils n'ont pas des taux de profit élevés, ils font tout pour avoir des taux de profit élevés. Quand ils peuvent créer un dispositif qui augmente les taux de profit sans violence, ils le font, ou ils font que de la violence sociale. Mais à un moment donné, ils sont prêts à utiliser la violence physique si nécessaire. Si vous voulez lutter contre les politiques d'austérité, il faut en même temps lutter contre le capitalisme.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette spéciale économie animée par Bernard Tepper. Bernard Tepper, ingénieur économiste, membre du réseau Éducation Populaire, membre du conseil scientifique de l'association ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. On se rencontre dans le cadre d'une conférence sur la loi de travail El Khomri, organisée par l'association des Amis du Monde Diplomatique. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous allez aujourd'hui prendre le temps d'entendre parler d'économie. On va prendre le temps et prendre le risque de dire des trucs longs et apparemment compliqués, mais pas incompréhensibles, malgré ce que vous font croire les communicants qui se prétendent journalistes et qui défient la longueur de médias pour vous insulter et vous faire croire que vous êtes trop bête pour vous intéresser à l'économie et que vous feriez mieux de laisser ces questions-là à des gens intelligents dont vous ne faites évidemment pas partie. Or, de l'économie, vous allez aujourd'hui en faire avec cette petite histoire du capitalisme contemporain qu'on va démarrer à la crise de 1929. Et dans cette longue histoire de la folie du capitalisme, la loi El Khomri sur le travail et sur le rétablissement de l'esclavage n'est finalement qu'une étape. Une loi scélérate qui valide le retour de notre société vers la sauvagerie du capitalisme du 19e siècle, c'est aujourd'hui la marche triomphale du renard libre dans le poulailler libre. Entre autres horreurs qui nous viennent du passé avec la destruction du droit du travail, la semaine de 60 heures, la journée de travail de 12 heures, le contrôle total de l'employeur sur le travailleur et sur son salaire, possibilité pour le patron de licencier librement et donc de faire baisser les salaires par le chantage à l'emploi, et une ribambelle d'autres mesures rétrogrades qui vont faire que le travail, qui n'est déjà pas toujours très drôle pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, le travail va devenir encore plus infernal qu'il ne l'était déjà. Tout ça sous l'impulsion d'un gouvernement clé journaliste, ose encore qualifier de socialiste ou de gauche. Depuis le temps qu'on vous dit dans cette émission que le PS est un parti de droite, on attend évidemment avec impatience le retour de la droite officielle, celle qui n'est pas complexée. Mais le pire, c'est que le cauchemar de cette loi travail n'est qu'une goutte d'eau, un jalon parmi bien d'autres infamies de la longue histoire de la destruction de nos conquis sociaux, des droits conquis de haute lutte, et souvent dans le sang, pour nous, par nos aïeux, et ce jusque dans le combat de la résistance française contre les nazis. Nazis dont les lignées d'amis, patrons, collaborateurs français et autres 200 familles sont d'ailleurs aujourd'hui pour la plupart encore au pouvoir, quelle que soit la supposée couleur des pantins politiciens qu'on nous envoie aux élections pour nous distraire.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Destruction du droit du travail, destruction et marchandisation de nos services publics, destruction de l'école, destruction de la retraite de nos vieux, et bientôt destruction de la sécurité sociale, donc, alors que de toute son histoire, la France, cinquième puissance économique mondiale, n'a jamais été aussi riche. Et c'est d'ailleurs l'ironie de ces récentes crises économiques, ce ne sont pas des crises de pénurie, mais des crises d'excès de capitaux. On ne crève pas de manque, mais de surabondance de fric. On en parle aujourd'hui avec votre invité, l'économiste d'ATTAC, Bernard Tepper, qui va aussi vous rappeler que tout ça est dans le fond assez simple. Des richesses, il y en a à foison, elles sont contrôlées par une poignée de voyous en col blanc qui vous enfument et vous vampirisent.
La voix off.
Et une polémique.
Oh là, les ennuis commencent.
Il s'agit d'un trucage.
Le seul principe
et scandaleux.
Mesdames et messieurs, je veux le dire aux Français, le capitalisme fait repartir le chômage à la hausse tous les jours. Le capitalisme contribue à aggraver la crise. Tous les jours, le capitalisme, c'est fatal. Le capitalisme, c'est l'irresponsabilité généralisée. Le capitalisme n'offre aucune solution à la crise. Le capitalisme, ce n'est pas l'anticapitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas la vérité. C'était une folie, catastrophique. C'est la révolution. Vive la révolution. C'est la révolution. Vive la révolution. Je veux le dire aux Français. Vive la révolution. Le capitalisme, ce n'est pas la vérité. Au cœur du système de valeurs de l'économie. C'est la révolution. Vive la révolution. Tous les jours, je veux le dire aux Français. La loi de la jungle marque la fin d'un monde. Marque la fin d'un monde. Marque la fin d'un monde. Le capitalisme est la principale menace de tous les Français. Contre l'avantage de compétitivité, le producteur français peut faire tous les gains de productivité aux effets sinocifs. La compétitivité de notre économie est compétitive. Alors il faut bien sûr affaiblir leur compétitivité. Mesdames et messieurs, c'est la révolution. Vive la révolution. Je veux le dire aux Français. Vive la révolution. Le capitalisme, ce n'est pas la vérité. Au cœur du système de valeurs de l'économie. C'est la révolution. Vive la révolution. Je veux le dire aux Français. La loi de la jungle marque la fin d'un monde. La fin d'un monde. Alors, les Français devront produire des émeutes tous les jours. Mesdames et messieurs, c'est la révolution. Vive la révolution.
La voix off.
Et une polémique.
C'est un montage.
C'est pas gentil.
La loi de la jungle marque la fin d'un monde. Vive la révolution. C'est en substance ce qu'on pourrait comprendre de cette rapide histoire de la démence capitaliste moderne que vous démarrez maintenant avec l'économiste Bernard Tepper de l'association Attaque.
Je vais partir de la crise de 29. La crise de 29, c'est une crise des crédits hypothécaires, d'ailleurs à peu près de même nature que celle de 2007-2008. Aucun gouvernement n'a réussi à résoudre cette crise-là. Ce qui a résolu la crise de 1929, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu suffisamment de destruction de capital dans les pays développés, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., pour qu'on puisse relancer le capitalisme à la libération avec des taux de profit élevés. Comme les luttes sociales étaient extrêmement importantes dans cette période-là, la CGT était puissante, les partis de gauche étaient majoritaires, le parti communiste était le premier parti de gauche, il y a eu une reconstruction qui s'est effectué avec des taux de profit élevés et des croissances élevées, et puis une amélioration importante des ouvriers, des employés, de leur niveau de vie. Et ça fonctionne jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le taux de profit dans l'économie réelle s'écroule. Alors, les dirigeants du monde, ils veulent continuer le capitalisme. Voulant continuer le capitalisme, il faut des taux de profit élevés. L'économie réelle donne des taux de profit faibles. Alors ils décident la financiarisation de l'économie. Cette financiarisation de l'économie est décidée par l'oligarchie néolibérale mondiale pour augmenter les taux de profit. Au lieu d'avoir 2-3% dans l'économie réelle, ils peuvent avoir 10 à 15% dans la spéculation financière internationale. La globalisation financière est née grâce à ça et les taux de profit redeviennent importants pour les dirigeants du monde, pour les dirigeants des multinationales, pour etc. Et à ce moment-là, le monde devient financiarisé. pour pouvoir continuer cette poule aux œufs d'or dans le capitalisme, il faut maintenir des taux élevés, mais il faut aussi financer la spéculation financière internationale. Il faut la financer. Et petit à petit, les bulles financières qui ont été constituées éclatent. Alors il y a eu la bulle financière de 2000, c'était ce qu'on a appelé la bulle Internet, et puis la bulle immobilière de 2007-2008. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un éclatement de bulle comme ça ? Les dirigeants privés n'arrivent plus à rembourser les dettes privées. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils contrôlent tout, c'est-à-dire ils contrôlent les États, ils contrôlent les multinationales et ils contrôlent toutes les associations multilatérales. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, toutes les associations régionales, l'ALENA, l'Union européenne, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils décident de prendre l'argent public pour combler les dettes privées. Alors c'est peut-être pas très moral, mais ils ont les mains sur les manettes. Et donc, ils utilisent l'argent public, qui était déjà dans le budget des États, et l'argent public qui est lié par la création monétaire.
On privatise les profits, mais qu'on nationalise les déficits.
Absolument, privatisation des profits, socialisation des pertes.
Par exemple, quand en 2008, les banques s'écroulent, jouent au Monopoly, perdent, mais c'est le contribuable qui rachète la partie.
Et donc, comme il y a de l'argent public utilisé pour résoudre le problème des dettes privées, bah forcément, ça augmente la dette publique. Ah, alors là, maintenant, on est dans une crise de la dette publique. Vous prenez l'argent public, vous payez les dettes privées, bon bah vous augmentez la dette publique. Et l'augmentation de la dette publique, il faut qu'ils trouvent un moyen de la financer. Quand on a une dette qui augmente, bah faut financer la dette. Ils ont les mains sur toutes les manettes des multinationales, les manettes des États, les manettes des associations multilatérales, les manettes des associations régionales comme l'Union européenne. Bah ils disent, bah il faut baisser les salaires. Donc il faut des politiques d'austérité pour financer ce système-là. Et les politiques d'austérité, ça veut dire la baisse des salaires. Ça ne veut pas dire que votre salaire, on va le baisser demain matin à 8h30, mais ça veut dire qu'on va employer toute une série de dispositifs qui vont baisser la masse des salaires. Alors on va remplacer les fonctionnaires par des CDI, on va remplacer des CDI par des CDD, on va remplacer des CDD par des précaires.
Et les précaires par des stagiaires.
Voilà, absolument. Les politiques d'austérité, c'est ça qui est important à comprendre, sont obligatoires pour financer le capitalisme. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où il n'est plus possible de continuer le capitalisme sans les politiques d'austérité. Cette difficulté de la dette publique, elle est accentuée par un deuxième phénomène. C'est-à-dire l'augmentation de la dette publique est liée, d'une part, au financement des dettes privées, mais elle est liée aussi à un deuxième phénomène, toujours pour financer l'effort capitaliste de l'augmentation du taux de profit, c'est la baisse des impôts. Il y a plusieurs façons, évidemment, d'augmenter les taux de profit. La première, c'est de diminuer les salaires. Quand je dis salaire, c'est aussi bien les salaires directs que les salaires socialisés comme les cotisations sociales. Mais la deuxième façon, c'est de dire on va diminuer les impôts. On va diminuer les impôts des entreprises. On va diminuer les impôts des plus riches. Parce que bien sûr, leur système, il est simple. Les pauvres étant plus nombreux, vaut mieux les taxer eux et diminuer en fait les impôts pour les riches. Donc par exemple pour les entreprises, en France, en 20 ans, hein, on est passé de 45% d'impôts sur société à 33%. Lorsqu'on est une firme multinationale, là, on paye entre 2 et 8% et non pas 33% parce qu'on a toute une série de niches fiscales et on a toute une série de dispositifs d'évasion fiscale légale.
En police, ça s'appelle optimisation, je crois, non ?
Absolument, c'est l'optimisation fiscale parce que quelquefois, on nous amuse un petit peu avec l'évasion fiscale illégale. Mais ce qui est le plus important dans le capitalisme, en masse, c'est l'évasion fiscale légale. Effectivement, ce qu'ils appellent, eux, optimisation fiscale. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le commerce mondial est majoritairement un commerce intra-firme. Il y a bien sûr le commerce entre la France et le Brésil, mais la majorité, c'est les multinationales qui échangent avec leurs filiales. Et c'est la base de l'optimisation fiscale. J'ai de l'argent dans la multinationale française. Je vais vous téléphoner à vous, PDG de la filiale, qui me vend les matières premières. Et je vais vous dire, à partir de demain matin à 8h30, vous m'augmentez le prix des matières premières de 30%. Vous êtes le PDG de la filiale, le PDG de la maison mère vous dit... Donc le lendemain matin à 8h30, vous dites aux facturières, il faut augmenter de 30%. Et puis bien sûr... Brigitte, la dirigeante de TF1 ou de France 2, parce que c'est à peu près le même discours. Je dis à Brigitte, Brigitte, toi qui es la cheftaine de TF1 ou de France 2, il faut que moi, PDG de la maison mère, je puisse expliquer aux gens que les méchants qui fabriquent les matières premières vont augmenter leur prix, et donc moi je suis obligé d'augmenter leur prix aussi. Alors en fait, je viens à la télévision et je pleure. Les matières premières, ils les ont augmentées, etc. Donc bien sûr, les matières premières, les factures augmentent. Ça veut dire que le bénéfice qui était dans la maison mère se trouve dans la filiale. Et bien évidemment, la filiale est dans un endroit où il n'y a pas d'impôt et où l'évasion fiscale peut se terminer dans n'importe quel paradis fiscal. Il y a donc tout un dispositif que le néolibéralisme a mis en place qui vise à faire financer les dettes privées par les dettes publiques, à baisser les impôts et à favoriser principalement l'évasion fiscale légale. Quand on nous dit, par exemple, partout, c'est pas moral l'évasion fiscale illégale, on fait comme si l'évasion fiscale légale, c'est normal. Et c'est ça la grande masse. Là, c'est pas des dizaines de milliards, c'est des centaines, c'est des milliers de milliards. Donc le problème de fond aujourd'hui du néolibéralisme, c'est l'ensemble du dispositif qui est mis en place pour financer la spéculation financière internationale afin que le capitalisme puisse avoir des taux de profit élevés. Je le dis d'autant plus volontiers qu'il y a des antilibéraux qui pensent que l'on peut, par un coup de baguette magique, supprimer la finance. Par un coup de baguette magique, revenir à des politiques keynésiennes comme... au moment des Trente Glorieuses. Ce n'est plus possible. Car le capitalisme est principalement une usine qui vise à avoir des taux de profit élevés. Et lorsqu'ils n'ont pas des taux de profit élevés, ils font tout pour avoir des taux de profit élevés. Et donc maintenant, nous sommes dans une période où si on veut lutter contre les politiques d'austérité, eh bien il ne suffit plus de dire « je suis contre les politiques d'austérité ». Et ça, on l'a vu avec Syriza, 13 juillet 2015. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que Tsipras a trahi, etc. Non. À partir du moment où Tsipras dit « je veux lutter contre les politiques d'austérité et rester dans l'euro », il ne peut pas faire autrement que ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas Tsipras le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez lutter contre les politiques d'austérité, il faut en même temps lutter contre le capitalisme.
Je vais vous confier une chose.
François Hollande, candidat.
Dans cette bataille qui s'engage...
22 janvier 2012.
Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom. Pas de visage. Pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Mon ennemi, c'est la finance. Puis ça a été plutôt son ami. Mais rien que cette phrase est problématique. Mon ennemi, c'est la finance. Ça laisse sous-entendre qu'il suffit de prendre la finance et de l'enlever, et on revient comme avant, avec dans les Trente Glorieuses. Eh bien, ça, c'est pas possible. Voilà. On est à une phase du capitalisme où les politiques keynésiennes ou néo-keynésiennes ne sont plus capables de fournir des taux de profit élevés. Elles ont été capables de fournir des taux de profit élevés parce qu'il y a eu énormément de destruction de capital dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais voyez, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de Troisième Guerre mondiale parce que le niveau des armements est trop élevé entre les grands pays. À partir du moment où un certain nombre de pays ont l'arme nucléaire et donc la dissuasion nucléaire, vous ne pouvez pas avoir une Troisième Guerre mondiale. Vous ne pouvez donc avoir que des guerres locales. On a tout eu, hein ? L'éclatement de la Yougoslavie, aujourd'hui l'Ukraine, hier l'Irak, la Libye, la Syrie, le Soudan, le Yémen, etc., etc. Donc, on vit plutôt une succession, une multiplication des guerres locales, mais comme ces guerres locales ne détruisent pas la grande masse du capital des pays développés, parce que la guerre, elle a pas lieu aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, etc. Le seul moteur qui reste au capitalisme, c'est en fait le moteur des politiques d'austérité, donc de la baisse des salaires. La loi El Khomri, c'est, de la part des néolibéraux, la fin du processus visant à détruire toutes les protections salariales qui empêchent d'augmenter le taux de profit par la baisse des salaires. Ce n'est pas la loi El Khomri en elle-même, c'est la loi El Khomri, elle vient après la loi Macron, après la loi Rebsamen, après les lois de Sarkozy, après les lois Aubry 2, après les lois Auroux. Le capitalisme, l'oligarchie capitaliste, son but, c'est d'augmenter le taux de profit. C'est leur moteur, leur but. Ils n'essayent pas de raisonner, etc. Non, c'est l'augmentation du taux de profit. Tout ce qui s'oppose à l'augmentation du taux de profit sera combattu par l'oligarchie. Quand ils peuvent créer un dispositif qui augmente les taux de profit sans violence, ils le font. Enfin, ou ils font que de la violence sociale. Mais à un moment donné, ils sont prêts à utiliser la violence physique si nécessaire. L'histoire pullule
Dit qu'Hitler n'a pas pris le pouvoir par hasard.
Ah mais c'est tout à fait ça. Hitler n'a pas pris le pouvoir par hasard. D'ailleurs, c'est intéressant de revenir. Comment Hitler prend le pouvoir ? Hitler est à la tête d'un parti d'extrême droite. À ce moment-là, tout le monde dit Hitler est un fou. Il dit n'importe quoi dans Mein Kampf. Ils ont eu tort d'ailleurs de ne pas lire Mein Kampf. Et puis, il y a eu la crise de 1929, que les gouvernements n'arrivent pas à juguler, ni la gauche ni la droite. La gauche est divisée entre Parti socialiste et Parti communiste. Je rappelle le mot d'ordre des communistes troisième période, qui est classe contre classe. Donc l'ennemi de classe, c'est le Parti socialiste. Donc l'alliance de gauche n'est plus possible. Elle le redeviendra en 1935 pour le Front populaire, mais au début des années 30, elle n'existe pas. Et la droite n'est pas capable de résoudre le problème. Qu'est-ce que fait le patronat allemand ? Le patronat allemand dit à la partie de la droite qu'il contrôle, bah vous allez vous allier avec le parti d'extrême droite parce que eux, par la violence physique, ils vont réussir à faire ce que vous ne réussissez pas à faire uniquement par la violence sociale. Donc c'est le patronat qui impose l'alliance entre la droite et l'extrême droite. Et bien sûr, quand il arrive au pouvoir, il applique ce qu'il a écrit dans Mein Kampf. Mais ça me fait penser à Daesh. Parce qu'il y a un intellectuel djihadiste qui a écrit quel est leur projet. Il s'appelle Al-Souri. Ce serait bien que les gens qui parlent dans les télés aillent lire. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, ça ressemble étrangement aux années 30. On a un patronat. Sur le plan politique, il a décidé de faire des alternances sans alternative. Dès qu'il peut, il met au pouvoir la droite néolibérale. Et quand les gens en ont marre de la droite néolibérale, ils mettent la gauche néolibérale. Puis quand les gens en ont marre de la gauche néolibérale, ils mettent la droite néolibérale. Bon, ça fait 30 ans que ça dure. C'est-à-dire que c'est la même logique néolibérale qui fonctionne en faisant une alternance sans alternative. C'est la même politique. Simplement, chaque gouvernement fait pire que le précédent depuis 30 ans. Monroy III fait pire que Monroy II, Fabius pire que Monroy II, Chirac pire que Fabius, Rocard pire que Chirac, et ainsi de suite jusqu'à Hollande et Valls.
Qui arrivent quand même à faire pire que Sarkozy.
Oui, ils font pire que Sarkozy, absolument.
La voix off.
Et une polémique.
Ils sont graves. Faire attention.
Il s'agit d'un trucage.
Une forme de détournement.
François Hollande, bonsoir et bienvenue bonsoir. Sur ce plateau. Alors, on va réagir tout de suite.
Je suis un socialiste irresponsable. Je serai là dans l'illusionnisme du Parti Socialiste. Pour ne rien dire, pour ne rien faire. Voilà.
Vous faites de l'économie aujourd'hui dans cette émission avec Bernard Tepper de l'association ATTAC et du réseau Éducation Populaire. L'occasion de vous rendre compte que vous n'êtes pas plus bête que n'importe qui pour aborder les questions de la dette, de l'évasion fiscale ou de la spéculation financière. Et vous faites aussi de l'histoire puisque Bernard va maintenant vous emmener dans les années 70, charnière dans l'histoire du capitalisme et donc du monde. Les 70s, prémices de la révolution ultra-libérale et de la folie de la financiarisation de l'économie. En France, une étape importante a lieu en 1973 quand le binôme Giscard-Barre au pouvoir oblige l'État français à désormais emprunter à fort taux aux banques privées, quand l'État français pouvait auparavant emprunter pour presque rien à la Banque de France, fric public pour financer les jeux de Monopoly des boursicoteurs privés.
Le point de départ, c'est l'écroulement des taux de profit dans l'économie réelle. Nous sommes fin des années 60, début des années 70. À partir de là, les néolibéraux proposent un projet global alternatif au modèle politique et économique des Trente Glorieuses. Le modèle politique des Trente Glorieuses, il arrive en fin de course parce que on est quand même dans le capitalisme, mais le taux de profit s'écroule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tous les moyens pour augmenter le taux de profit. Pour augmenter le taux de profit, eh bien, on va utiliser la spéculation financière internationale. Mais il faut utiliser tout ce qui est possible dans la spéculation financière internationale. À partir du moment où les États financent leurs dettes par leurs banques centrales. Parce qu'en général, ce qui se passait avant le 4 janvier 1973, l'État se finançait auprès de la banque centrale. L'État demande à la banque centrale de la monnaie et la banque centrale donne à l'État de la monnaie quasi gratuitement.
Alors, en 73, l'État français demande à la Banque de France.
À la Banque de France.
Maintenant, quand on dit banque centrale, on pense Strasbourg, machin.
Non. À la Banque de France.
Dans un autre siècle, voilà. Avant l'Europe.
Et pour pouvoir augmenter les taux de profit par la spéculation financière internationale, il faut empêcher les États de se financer par leur banque centrale. L'un des néolibéraux les plus acharnés, il s'appelait Giscard d'Estaing, je parle en France, et ministre des Finances de Pompidou, il n'empêche pas, mais il dit « L'État, s'il veut se financer grâce à sa Banque de France, il faut qu'il y ait un vote du Parlement. » Donc c'est compliqué. Hein, voilà. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde dit « Oui, il dépense trop d'argent, etc. » Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les néolibéraux ? Ils disent au lieu que la Banque centrale finance en fait la dette des États, eh bien il faut que la Banque centrale finance les banques et les institutions financières privées. Et ces banques et institutions financières privées fourniront les emprunts aux États. Et entre-temps, bien évidemment, il y aura un intérêt.
Oui, parce que j'allais dire, quand la Banque de France passait des sous à l'État français, c'était un taux d'intérêt minime.
0,1, 0,3, 0,4%.
Enfin, quand on a obligé l'État français à se financer auprès des organismes privés, là, c'était plus les mêmes taux d'intérêt.
Absolument. Et bien évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait les banques et les institutions financières ? Ils ont utilisé ce qu'on appelle les agences de notation, qui sont en fait des filiales déguisées des banques et des institutions financières, pour dire « Attention, cet État, il est un peu plus dangereux que celui-là, donc au lieu de lui prêter à 2%, faut lui prêter à 3, à 4, à 5, à 10, à 15%. » Et bien évidemment, tout ça revient à l'oligarchie, et bien évidemment, ça permet des taux de profit élevés.
le fait d'empêcher l'État de financer sa dette par sa Banque de France, c'est un moyen, d'une part, d'augmenter les profits de l'oligarchie, et deuxièmement, de tenir l'État. Karl Marx disait « la bourgeoisie tient l'État par la dette ». C'est des mécanismes qui existaient déjà au XIXe siècle pour que Marx les vu. Au lieu que ça soit la Banque de France, ce sont les créanciers privés qui financent l'État. Ça, c'est en 1973, c'est la France. Mais à partir du traité de Maastricht, de 1992, c'est plus seulement la France qui ne peut plus se financer auprès de la Banque de France, c'est l'ensemble des États européens qui ne peuvent plus se financer dans leur banque nationale et sont obligés de se financer par le secteur bancaire et financier international. Et le secteur bancaire financier international, lui, se finance auprès de la Banque Centrale Européenne et fournit les emprunts aux États. Et bien évidemment, à des taux d'intérêt très élevés par rapport à ce qui existait avant. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que ce système-là, qui apparaît comme un dispositif technique, est en fait un moyen d'augmenter les taux de profit dans la spéculation financière internationale. Voilà. C'est-à-dire que l'augmentation des taux de profit, elle se fait par les taux d'intérêt prêtés aux États et également par la spéculation financière internationale elle-même. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'augmenter le taux de profit. Le mouvement réformateur néolibéral a créé un modèle politique global et complexe où il y a plusieurs éléments qui s'articulent, mais dont le but ultime, c'est l'augmentation du taux de profit dans la spéculation financière internationale. Il est illusoire de croire que l'on peut, sans changer, je dirais, ceux qui tiennent les manettes, sans changer les politiques, nous sommes dans un système où il faut penser l'alternative au système. Tous ceux qui croient résoudre le problème par un petit dispositif technique sortiront gros gens comme devant. Quand on a du choix, c'est au moment du choix qu'il faut choisir. 30 ans ou 35 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, faire le chemin inverse est très, 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 très difficile.
Surtout que là, on est rentré dans la nasse européenne. C'était bien facile d'y rentrer, mais en sortir, ça va être autre chose.
Ça veut donc dire la chose suivante. Il y a là-dessus des accords entre économistes. Il y avait ceux qui étaient favorables à ce qu'on appelle le plan A. On peut garder l'Union européenne, on peut garder la zone euro. Simplement, il faut transformer l'euro carcan en euro social.
Et peut-être essayer d'en profiter un petit peu pour essayer d'ouvrir les guillemets, de moraliser le capitalisme.
Mais ça, c'est la moralisation du capitalisme, est une vue de l'esprit. Le capitalisme, c'est l'augmentation du taux de profit. S'il n'y a pas d'augmentation du taux de profit, ce n'est plus le capitalisme. Alors, je reviens. Il y a aujourd'hui des gens qui sont favorables à ce qu'on appelle le plan B. Je quitte l'euro demain matin à 8h30. Modifier les flux financiers entre banque centrale et État, sortir de l'euro, etc., c'est une disposition complexe et qui entraînera beaucoup de perdants. Si nous laissons le système néolibéral fonctionner comme ça, il va obligatoirement augmenter ses politiques d'austérité. Donc ça va être plus dur pour toute une partie de la population. Si on sort de l'euro demain matin à 8h30, une partie de la population va être dans une situation dramatique aussi. Ce choix, il n'est pas si simple à faire. Bon, les couches moyennes supérieures radicalisées qui ne subissent pas l'austérité, pour eux, c'est pas grave. Ils s'en sortiront toujours. Mais pour les catégories populaires, c'est pas si simple. La solution, en tout cas, c'est celle que je préconise, c'est un plan C. C'est d'utiliser les crises du capitalisme. Parce que bien évidemment, l'éclatement de la bulle va avoir lieu. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 2007-2008 va revenir. Parce que la Banque Centrale Européenne a augmenté énormément les liquidités, donne de l'argent à qui en veut et la bulle, elle est en train de monter.
Pour calmer les incendies, on donne des bidons d'essence aux pyromanes, donc c'est un peu compliqué.
C'est un peu ça. Donc, il va y avoir de nouvelles explosions dans le capitalisme. Il va y avoir une nouvelle crise paroxystique. C'est au moment de la crise paroxystique qu'il faut faire la bifurcation, faire la grande bifurcation. Parce que là, on est obligé. Donc, il faut plutôt se préparer à agir au moment de la prochaine crise paroxystique. Parce que là, on sera le dos au mur. Par contre, dans un système démocratique, je vois mal des dirigeants décider d'appauvrir une partie de la population de façon très forte. Parce que, si vous voulez, une sortie de l'euro et une modification du système, il va y avoir bien évidemment une réaction en chaîne de l'oligarchie. Ils ne vont pas se laisser faire. Et donc, moi, je suggère plutôt de dire il va y avoir une crise paroxystique. Les mêmes causes qui ont produit 2007-2008 n'ont pas été traitées. Il va donc y avoir une crise paroxystique probablement plus forte que celle de 2007-2008, quand elle aura lieu, j'en sais rien, il faut que les gens se préparent à cette crise paroxystique. Et c'est au moment de cette crise paroxystique qu'il faudra faire la bifurcation vers un autre système, un autre modèle politique que le modèle politique néolibéral. Et c'est pour cela qu'il faut développer l'éducation populaire, il faut développer la compréhension du système et surtout faire en sorte que les couches sociales qui ont intérêt au changement se mettent, je dirais, à agir pour le changement. Dans les 2500 ans d'histoire que nous avons connus, jamais les changements importants ont été faits parce que des grands dirigeants ont décidé de le faire. Jamais. Quel est le dirigeant de la Révolution française qui a dit « la semaine prochaine, on prend la Bastille » ? Vous pouvez chercher les 50 grands dirigeants de la Révolution française ? Non. C'est un groupe d'artisans et d'ouvriers de la rue du Faubourg Saint-Antoine qui se sont dit « la semaine prochaine, on prend la Bastille » parce qu'on en a marre. La Bastille est prise, il n'y avait presque plus personne dedans. Le siècle de lumière a convaincu tous les ouvriers, tous les apprentis, tous les artisans, tous les paysans pauvres, tous les bourgeois, que la monarchie absolue, il fallait s'en débarrasser. Et donc, l'hégémonie culturelle de la Révolution était déjà dans toutes les têtes. Et à ce moment-là, ça va très vite. 14 juillet, la prise de la Bastille, 4 août, l'abolition des privilèges, 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 6 semaines, on est dans un processus d'un nouveau modèle politique. Amour sacré. Je donne un deuxième exemple. Quel est le dirigeant politique ou le dirigeant syndical qui a dit, en juin 36, lorsqu'il y a la victoire du Front populaire, demain matin à 8h30, grève générale et vive les 40 heures et les 15 jours de congés payés. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. La réalité historique, c'est laquelle ? Il y a la victoire du Front populaire. Quel est le programme du Front populaire ? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le programme du Front populaire. Sauf la dissolution des ligues factieuses. D'ailleurs, dès que le Front populaire a gagné, les journaux de gauche disent « dissolution des ligues factieuses ». On est après le 6 février 34. Et puis les nouveaux, ils arrivent, ils vont diriger le pays. Et puis à ce moment-là, il y a une usine qui se met en grève en disant quand même, on a gagné, mais en fait, on n'a rien gagné. Et se met en grève. Une deuxième usine se met en grève. Une troisième usine se met en grève. Ainsi de suite, 10, 15, 20. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, le bureau confédéral de la CGT se réunit en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là seulement, il décide la généralisation de la grève. Et il lance la grève générale. Elle marche. Donc il faut des revendications. Et les revendications, la discussion ouvrière, eh ben, c'est les 40 heures et les 15 jours de congés payés. Mais elles ne sont pas dans le programme du Front populaire. Ce n'est pas le Front populaire qui donne les 40 heures et les 15 jours de congés payés. C'est le peuple, les salariés, la grève générale qui décide que le compte n'y est pas et qu'on en veut plus. Pourquoi je donne ces deux exemples ? C'est parce que pour des petites mesurettes, genre augmentation du SMIC de 0,1%, ça les gouvernements savent. Jamais un gouvernement a décidé lui-même de faire une grande avancée sociale. C'est en général le produit d'un mouvement social et politique puissant. Comme ça s'est passé comme ça pendant les 2500 ans d'histoire, ça se passera comme ça lorsque on verra le nouveau processus, je dirais post-capitaliste, démarrer. C'est quand le peuple aura décidé.
Ça fait un peu peur quand même, parce qu'en 2016, le peuple il vote un petit peu à 40% d'intention de vote pour le Front National, bon, dans un pays à 10 millions de chômeurs.
Soyons précis. Le Front National fait plus de 30%, mais le Front National fait plus de 30% des votants. Et il y a des gens qui ne votent pas. Alors le 20h de France 2 et le 20h de TF1 et BFM et iTélé disent « Ah, c'est les abstentionnistes ». Les couches moyennes intermédiaires et les couches moyennes supérieures votent en rang serré. Alors qui s'abstient ? Les ouvriers et les employés, qui font 53% de la population française, décident aujourd'hui à 60% de s'abstenir. C'est-à-dire que la catégorie sociale qui a intérêt au changement décide majoritairement de s'abstenir. Elle ne se sent pas concernée par l'offre politique qu'on lui présente. Si on regarde très clairement les élections de 2013, 2014, 2015 jusqu'au départemental, on a 70% d'abstention chez les ouvriers et les employés. Donc la cause est entendue, la droite est majoritaire. Comprenons bien que, par exemple, François Mitterrand, le 10 mai 81, il est élu au deuxième tour par plus de 80% des ouvriers et des employés. C'est parce que 80% des ouvriers et des employés disent « on veut plus de Giscard d'Estaing », on veut François Mitterrand. Ils ont peut-être regretté après, mais à ce moment-là, ils ont dit ça. 80% des ouvriers et des employés ont voté François Mitterrand, 70% des ouvriers et des employés se sont abstenus aux élections 2013, 2014 et 2015 jusqu'au départemental. Le Front National est le numéro 1 ouvrier, mais dans les 30% qui votent. C'est-à-dire que tous les partis, de l'extrême gauche jusqu'au Front National, ils se partagent les 30%. Les 70% ne votent pas. Qu'est-ce qui s'est passé aux dernières régionales ? 10% des ouvriers ont basculé Front National. C'est ce qu'a fait la poussée du Front National. C'est la première fois qu'une partie des abstentionnistes de gauche bascule côté Front National. Sans les ouvriers et les employés, il n'y aura pas de transformation sociale et politique en France. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas des gens qui gagnent 4-5 000 euros par mois qui feront la révolution. Voilà. Ce sont les ouvriers et les employés, les précaires, ceux qui subissent les politiques d'austérité, qui subiront la loi El Khomri si par malheur elle est votée, etc. Donc, notre chance, c'est que la majorité des ouvriers et des employés refusent l'offre politique Front National compris. Donc, il y a encore de l'espoir. Donc, il faut développer l'éducation populaire. Mais pas simplement l'éducation populaire chez les couches moyennes supérieures radicalisées. L'éducation populaire dans le peuple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait partie de la création du réseau éducation populaire, dont le but, c'est ce que je viens de dire, et de faire des partenariats avec toute une série d'organisations, ceux qui travaillent dans les quartiers populaires, ceux qui travaillent en liaison avec les ouvriers, les employés, qui sont quand même encore majoritaires dans ce pays, 53%. Les couches moyennes, d'après l'INSEE, ne représentent que 39%. 53 et 39, 92, c'est le salariat. Voilà. Après, il y a 7-8% de non-salariés. Bon. Donc, aujourd'hui, il est absolument nécessaire de mener l'éducation populaire pour travailler une alliance entre les couches populaires,
ouvrières et employées, et les couches moyennes intermédiaires, qui font 77%, voilà une masse, et qui est le socle du changement. Si on ne fait pas ça, rien ne se passera. Parce que si plus de 60% des ouvriers et des employés ne votent pas, si plus de 60% des jeunes ne votent pas, et qu'il y a que la bourgeoisie qui a des assurances-vie dans les banques qui vote, il n'y aura pas de transformation sociale. D'où le fait d'avoir une position claire là-dessus. C'est qu'il faut un rassemblement du peuple pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avoir une chance de combattre le néolibéralisme sérieusement. Si on ne fait pas ça, on est dans la situation actuelle. Vous avez un parti socialiste qui fait la même politique que les Républicains. Vous avez une gauche qui, même si elle s'unit, elle fait 30-35%, donc incapable d'avoir la majorité, et que donc, on ne peut changer les choses que si on a une vision populaire du changement. On ne change pas les choses contre la jeunesse, on ne change pas les choses contre les ouvriers, les employés. Et c'est le travail principal d'éducation populaire qu'il faut faire. D'où l'importance, par exemple, d'une lutte contre la loi El Khomri. J'aime bien la phrase de Camus, « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est bien nommer les choses. Et ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est tous les conquis sociaux du monde du travail. Donc c'est la sécu, c'est le code du travail, donc c'est beaucoup d'autres choses. Et dans cette loi El Khomri, c'est une loi où il y a énormément de choses dessus, mais la chose principale, c'est que la loi El Khomri, elle est la fin d'une période où l'oligarchie néolibérale a décidé l'inversion des normes. C'est très important. C'est-à-dire que l'ensemble des conquis sociaux, je reprends ce mot conquis d'Ambroise Croizat, parce que ce n'est pas des acquis sociaux, ce sont des conquis sociaux. Il n'y a pas d'acquis social.
Acquis social, ça veut dire que pris d'un élan de lucidité, les patrons ont ressorti leurs cornes d'abondance en disant « Ah bah les pauvres, vous êtes pauvres, on vous donne la sécurité. » Non, il y a des gens qui ont monté des barricades et qui se sont pris plein la gueule pour ça. Il y en a même qui sont restés sur le pavé.
L'ensemble des conquis sociaux. Et les conquis sociaux se passent sur un processus qui est le suivant. Il y a une loi qui définit le minimum. À partir de cette loi, il y a des accords interprofessionnels nationaux qui améliorent la loi. Ensuite, il y a des accords de branche qui améliorent l'accord interprofessionnel national. Et il peut y avoir des accords d'entreprise qui améliorent l'accord de branche. Mais par contre, dans cette hiérarchie des normes du travail, l'accord d'entreprise ne peut pas déroger à l'accord de branche, qui ne peut pas déroger à l'accord national, qui ne peut pas déroger à la loi. Et nous avons fonctionné comme ça depuis très longtemps. Les néolibéraux, leur idée, c'est d'inverser ça. C'est au lieu de mettre la loi en haut, qui peut être améliorée par l'accord national, par l'accord de branche, par l'accord d'entreprise, eux disent, l'accord d'entreprise peut déroger à tout.
C'est loin du compte, en fait, parce que je pensais que c'était une marche triomphale vers le 19e siècle. Mais en fait, on revient au Moyen-Âge, que c'est les petites féodalités locales, le petit baron du cru qui fait ça.
C'est absolument ça. Et, bien évidemment, le rapport de force sociale, là où il est le plus faible, c'est dans l'entreprise. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis un patron et toi, tu es un salarié, je te dis la chose suivante. Je te fous à la porte ou alors tu acceptes 30% de moins du salaire que je t'ai signé sur mon contrat de travail. Tu as le choix. Soit tu gardes ton emploi et tu as 20% ou 30% de moins, soit tu es viré. Il y a des salariés qui diront « je préfère gagner moins, mais gagner un petit peu ». Voilà. C'est-à-dire que le rapport de force patronal, il est d'une violence inouïe dans l'entreprise. La loi El Khomri, c'est ça. Un accord d'entreprise peut déroger à ton contrat de travail. C'est-à-dire que quand tu as signé ton contrat de travail, par un accord d'entreprise, je peux baisser ton salaire de 10%, de 20%, de 30%. Que tu sois d'accord ou pas. C'est comme ça. L'accord d'entreprise est plus important que le contrat de travail. Et ça, c'est bien évidemment
Le but, c'est baisser les salaires. Et baisser les salaires par un accord d'entreprise. Et l'accord d'entreprise, il va même plus loin. S'il y a un syndicat qui fait 30%, il peut proposer un référendum contre le syndicat qui est majoritaire. Et s'il gagne le référendum, on peut baisser les salaires, on peut augmenter la durée hebdomadaire de travail et on peut travailler plus pour gagner moins. Parce que le but de la loi El Khomri, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est-à-dire que l'accord d'entreprise surdétermine tous les choix et est capable de casser tous les conquis sociaux en dehors de cela. C'est une contre-révolution vraiment...
La façon dont tu l'annonces, on dirait une loi qui permet de contourner la loi. Ce qui est quand même assez grave dans la France, qui est censée être un état de droit.
Au renard libre, dans le poulailler libre. Hein, c'est-à-dire le renard, c'est le patron, et les poules, bah, elles sont là pour se faire plumer, quoi.
Tu noircis le tableau, c'est pas du tout ça. L'ouvrier qui est un entrepreneur finalement comme le patron, il a le droit de librement vendre sa force de travail au patron qui est libre de la lui acheter. Tout le monde est libre et mano en la mano évidemment.
Oui absolument, ça c'est la fiction. Mais cette fiction dont tu parles, on en rigole, mais en réalité c'est le fondement de l'hégémonie culturelle néolibérale. On dit plus... Par exemple, le mot salarié, ils sont en train de le supprimer.
C'est des collaborateurs maintenant.
Exactement.
Et les patrons ne sont plus des patrons, ce sont des entrepreneurs. Ils sont d'ailleurs valeureux et intelligents, plus que nous.
Voilà, c'est des entrepreneurs qui ont des collaborateurs. Alors bien sûr, les collaborateurs cessent d'être collaborateurs quand ils sont licenciés. Et en général, ce n'est pas les ouvriers qui licencient leurs patrons. Non, mais il y a toute une culture qui est en train de s'installer.
C'est ce que tu disais très justement tout à l'heure. En fait, je crois que le premier pouvoir, il est dans le pouvoir de faire dire aux mots des choses qu'ils ne veulent pas dire.
D'abord, il y a une question culturelle. Si le néolibéralisme se permet de faire ce qu'il fait, c'est parce que les néolibéraux ont gagné la bataille de l'hégémonie culturelle. On a des collaborateurs, pas des salariés. La lutte de classe, ça n'existe plus, etc., etc. Alors que... La deuxième fortune du monde, quand on lui pose la question « Est-ce que la lutte des classes existe ?» Warren Buffett, hein, pour ne pas le nommer, dit « Bien sûr que la lutte des classes existe, puisque c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. » On est vraiment dans une situation où on a été vaincu culturellement. Et donc, pour pouvoir renverser les choses, il va falloir mener une bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle. Il faut que nous regagnions... une nouvelle hégémonie culturelle.
Redonner leur sens aux mots.
Et c'est lié au fait de redonner leur sens aux mots. Une des difficultés dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur les mots justement, on peut en prendre plein. Je peux prendre par exemple le mot démocratie ou le mot laïcité. Tiens, je vais prendre démocratie. Un truc incroyable. Quand il y a la Révolution française, il y a un débat sur la démocratie. Ah, des gens qui sont pour la démocratie, des gens qui sont contre. Y compris dans les révolutionnaires. Tout le monde était contre la monarchie absolue, le roi, tout ça. Bon. Et à ce moment-là, il y a deux tendances. La première, disons, que je vais représenter par Condorcet, qui va donc développer la nécessité de la démocratie. Et la deuxième, ce sera l'abbé Sieyès. Et lui dira... Il faut un gouvernement représentatif pour éviter le pire des systèmes qu'est la démocratie. Et Sieyès disait, pour s'opposer à la démocratie, il faut un gouvernement représentatif. C'est-à-dire, c'est le peuple qui élit le gouvernement, et une fois que le gouvernement est élu, il décide de faire ce qu'il veut. Même le contraire de ce qu'il a dit aux élections. Aujourd'hui, qui a gagné ? C'est Sieyès. Nous sommes dans le gouvernement représentatif. Nous avons par exemple un président de la République qui a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Il a fait tout à fait le contraire quand il était au gouvernement. Donc il a appliqué la thèse de Sieyès. Seulement Sieyès, qui était un intellectuel, il disait « Le gouvernement représentatif, c'est ce qu'il faut faire pour éviter la démocratie qui est la catastrophe ». Aujourd'hui, on appelle démocratie ce que Sieyès appelait l'antidémocratie. C'est-à-dire que nous devons mener une bataille pour dire Nous ne voulons pas du gouvernement représentatif antidémocratique de Sieyès. Nous voulons la démocratie. Les quatre conditions de Condorcet. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, quand on demande aux gens la démocratie, c'est on élit les dirigeants. Et si les dirigeants font le contraire de ce qu'ils ont dit, c'est pas grave. C'est le système démocratique. Je vais prendre la laïcité, par exemple. La laïcité qui était un principe révolutionnaire, qui était un principe d'émancipation sociale. La laïcité, elle a avancé à la Révolution française, Révolution de 1830, 1848, la Commune de Paris, la consolidation de la Troisième République, le Front populaire, le Conseil national de la Résistance et son programme qui rétablit la laïcité. Et pendant 150 ans, tout le monde était d'accord sur la définition de la laïcité. Simplement, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Par exemple, Jean Jaurès était pour la laïcité, le pape était contre. Mais ils avaient la même définition de la laïcité. Donc au moins, on pouvait parler. Aujourd'hui, la laïcité, tout le monde est pour. Seulement, chacun a une définition contradictoire avec le voisin. C'est-à-dire que le mot laïcité est devenu une enveloppe où il n'y a plus de définition précise.
J'ai un autre exemple, beaucoup plus trivial. Le mot « violence ». Quand on fout sur le carreau 400 ouvriers dont on a supprimé l'emploi, ça s'appelle un plan social. Par contre, quand deux ouvriers déchirent la chemise d'un DRH, ça c'est épouvantablement violent.
Tout à fait. Il y a un intellectuel qui s'appelle Antonio Gramsci qui a expliqué que pour transformer la société, il fallait préalablement gagner la bataille culturelle. Il explique à la Révolution française, il explique que la bataille culturelle est gagnée dans les têtes. Après, il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, c'est les néolibéraux qui ont gagné la bataille culturelle. Parce qu'aujourd'hui, un cadre, ça s'appelle un collaborateur du patron. Collaborateur, on dit même plus salarié. Même dans l'opération Badinter, dans les 61 articles de Badinter, on enlève le mot salarié, on met le mot personne. Les droits de la personne. On pourra employer dans l'entreprise des gens qui n'auront pas le droit de salarié, qui ne seront pas salariés. Qui seront des précaires venus d'ailleurs. On inventera des auto-entrepreneurs, voilà, etc., etc., etc. Donc, on est dans une situation où nous devons regagner l'hégémonie culturelle. Et nous devons redéfinir tous nos mots, mots M-O-T-S, car on ne peut pas se battre si on n'a pas des mots pour les expliquer. Nous devons travailler, si on essaye de conclure. Il faut comprendre le système tel qu'il est. Il faut l'analyser correctement, faire une analyse concrète de la situation concrète. En terminer avec les pseudos alternatives keynésiennes, etc., les simplifications hâtives, etc. Deuxième chose, il faut travailler avec les couches sociales qui ont intérêt au changement. Les jeunes, les ouvriers, les employés, les couches moyennes intermédiaires, etc. Et puis, il faut mener la bataille culturelle. Et puis, ne pas se tromper de combat. Tout ça est compliqué. Et c'est pour cela que les transformations sociales et politiques mettent du temps. Parce que tout ça est compliqué. Et ceux qui, pour l'instant, ne votent pas, moi, quand je suis en contact avec eux, ils me disent « c'est plus compliqué que ce qu'ils racontent ». Et ils ont raison. Donc, il y a une nécessité de développer l'éducation populaire pour que les gens comprennent dans le système dans lequel ils sont, quels sont leurs pouvoirs, et lorsqu'ils auront compris le fondement du système, comment on lutte contre ce système, quelle est l'étendue de leur pouvoir qui est plus important que ce qu'ils croient au début, eh bien à ce moment-là, on sera à l'aube d'un processus de transformation sociale et politique.
Et voilà les amis, s'il doit y avoir un renversement des choses, cela devrait commencer par une bataille culturelle, commencer par redonner leur sens aux mots. Et c'est d'ailleurs aussi ce que font les participants des Nuits Debout. C'est en tout cas la fin de cette conversation avec Bernard Tepper que vous pouvez réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Et on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut!
Terminé. Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant!
Radio G. 101.5 FM.
You just keep fishing. You just a scammer. You just a spammer, boy. You only still a scammer. I'm the queen of the club, you can't even remember. I've been my empire. Never retire.